magazine des Nations Unies.
Mais la FAO juge la situation humanitaire d'environ 2 millions de déplacés internes sombre, bouleversante et inouïe dans le Tanganyika et le Kasaï. Une mission conjointe de ces deux agences est rendue dans la région. Dans ce magazine, le témoignage poignant du représentant intérimaire de la FAO. Le 26 juin dernier, la communauté internationale a renouvelé son soutien aux victimes de la torture. En RDC, une sensibilisation tous azimuts pour la mise sur pied d'un mécanisme de prévention. Mais qu'est-ce que la torture et quel en est l'état de lieu? Élément de réponse dans cette édition. Enfin, il faut un plan de contingence pour sécuriser les prisons en RDC. La MONUSCO s'y attelait à travers une formation à Goma à l'intention des policiers congolais. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce magazine dédié aux Nations Unies. Avec environ 2 millions de déplacés internes, la situation humanitaire dans le Grand Kasaï et le Tanganyika est sombre, bouleversante et inouïe, mais elle permet de garder espoir. C'est en substance le témoignage d'une mission conjointe PAM et FAO, à laquelle ont fait partie les directeurs des urgences de ces deux agences venues de Rome, avec comme objectif se rendre compte de la situation sur le terrain, mais aussi et surtout envisager des actions humanitaires d'urgence. Je vous propose sans plus tarder le témoignage poignant du représentant ad intérim de la FAO. Les propos d'Alexis Bonté sont recueillis ici par Jean-Pierre Lali Coco.
Vous savez, rien qu'au Kasaï et Tanganyika, c'est environ 2 millions de déplacés. C'est inouï, c'est bouleversant. 2 millions de déplacés, pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur de la République, c'est environ Paris intramuraille. Donc c'est une population énorme. Pour nous qui vivons en RDC, c'est comme si tout le Maniema devait fuir. La situation, elle est vraiment sombre, mais grâce aux rencontres qu'on a eues avec les populations déplacées, elles ont permis de garder espoir. À Kalemie, dans le camp de déplacés, en fait, on a eu la chance de rencontrer le chef Kalunga, qui nous a promis, et qui l'a fait d'ailleurs, pouvoir avoir accès à des terres des bas-fonds. Et depuis 2 mois, ces bas-fonds ont été transformés en champs de maraîchage. Et là, on a vu des dames et des enfants avec le sourire. À Tikapa, on avait vu dans un centre de santé environ 200 enfants et femmes. Donc c'est encore plus atroce qu'on a vu. On a vu des enfants blessés à la machette. Et là également, on a pu intervenir avec des intrants agricoles, des semences, des outils, etc. Et puis ces ONG ont trouvé une vingtaine d'hectares en bordure du fleuve.
Nous retrouverons Alexis Bonté dans quelques instants. Il sera l'invité de ce magazine. Autre chose à présent, la communauté internationale a célébré ce lundi 26 juin la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Plusieurs manifestations sont organisées à travers le monde et en RDC pour appeler la détermination des Nations Unies à éliminer totalement la torture dans le monde. Qu'est-ce que la torture? Quel est son état de lieu à l'échelle mondiale, mais surtout en République démocratique du Congo? Esquisse de réponse avec Jean-Pierre Lali Ikoko.
Selon la Convention des Nations Unies contre la torture, adoptée le 10 décembre 1984, la torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne afin d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux. En vertu du droit international, la torture est un crime et fait l'objet d'une interdiction absolue qui ne peut être justifiée en aucune circonstance. La torture vise donc à briser la personnalité de la victime et constitue une négation de la dignité humaine. Nonobstant son interdiction, la torture persiste dans toutes les régions du monde. Et d'après l'ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort, ACAT, un État sur deux dans le monde continue à appliquer la torture. En RDC, la situation n'est pas aussi brillante. Pour ne retenir que les récents événements de décembre 2016, l'ONG Amnesty International épingle dans son rapport de nombreux actes de torture et d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants commis par les agents de sécurité et des groupes armés. Cette ONG internationale précise que l'Agence nationale de renseignement en air s'est rendue coupable d'enlèvement et de formes de détention prolongée ou secret qui enfreignaient les droits de personnes détenues d'être traitées avec humanité. Malgré ces constats, des efforts sont faits dans le pays. À l'occasion de la célébration de cette journée lundi dernier, par exemple, le vice-ministre de la Justice a annoncé la mise sur pied d'un mécanisme de prévention contre la torture. Selon Bosso Kodia, des concertations entre le gouvernement, ses partenaires, dont le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que la société civile seront organisées avant la fin juin dans la perspective de la mise en place de ce mécanisme.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Et nous restons toujours dans le contexte de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture à Kinshasa, en partenariat avec la SOROP, la Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix, une ONG des droits de l'homme. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé une conférence de sensibilisation sur les mécanismes nationaux de lutte contre la torture en RDC. En marge de cet événement, M. Eric Selemani, coordonnateur de cette organisation, a répondu aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Eric Selemani, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le 26 juin, c'est la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Comment les défenseurs des droits de l'homme que vous êtes définissent le concept de la torture? La torture, c'est quoi?
En fait, nous ne pouvons pas donner une définition qui s'écarte de la loi. La loi portant criminalisation de la torture définit le mot torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux.
Alors, il y a plusieurs formes de torture, certainement.
Normalement, il y a plusieurs formes de torture. Nous avons des tortures qui touchent à l'être physique, torture physique, comme des coups, des brûlures ou des mutilations. Il y a aussi la torture psychologique. Je vais donner l'exemple, lorsqu'une personne est maintenue dans une position d'incertitude, des actes qui touchent à ses valeurs morales ou qui l'obligent à assister, par exemple, à un viol d'un membre de la famille, ce sont des actes qui perturbent le mental de la personne. Nous pouvons aussi citer des tortures qui découlent des conditions ambiantes. Par exemple, vous êtes détenu dans un cachot où il fait noir, où il y a trop de lumière. Ce sont des éléments qui peuvent aussi toucher à l'être, mais aussi à des tortures pharmacologiques où il y a des injections, des doses toxiques qui sont injectées dans le corps ou des substances paralysantes par exemple.
Qui peut être victime d'une torture selon vous?
Toute personne, tout individu, chaque être humain peut être victime de la torture.
Chaque être humain peut être aussi auteur de la torture?
Ah, malheureusement non. Chaque personne ne peut pas être à la fois auteur et victime. Nous disons que toute personne peut être victime, mais pas toute personne peut être auteur. La loi définit ou nomme quelques auteurs. Nous pouvons citer les fonctionnaires de l'État, les officiers publics, mais aussi les personnes chargées d'un service public ou d'autres personnes agissant aux ordres de l'État.
Donc, par exemple, un enfant qui subit une maltraitance au niveau de la famille ou au niveau de l'Église parce qu'il est sorcier, cet acte-là ne peut pas être qualifié de torture.
Cet acte, quelle que soit la gravité, ne peut pas être traité de torture, mais ce sont des actes de maltraitance qui sont pris en compte par la loi, pas nécessairement la loi criminalisant la torture.
Oui, que c'est les manières. Je reviens à la journée du 26 juin. C'est sous quel thème l'ONU a placé la célébration de cette journée?
Il y a un thème, mais c'est plutôt un appel que l'ONU a lancé à tout le monde. Tous debout pour la prévention de la torture dès aujourd'hui. Donc c'est un appel qui est lancé à tous les acteurs du gouvernement, la société civile, les individus aussi. Ils sont tous appelés à participer à la lutte contre la torture dès aujourd'hui.
Ok, alors quel peut être l'état du lieu de la torture ou de la lutte contre la torture en République démocratique du Congo?
Si nous devons faire un état des lieux de la torture en RDC, il faut commencer par souligner que notre gouvernement interdit la torture. Notre constitution, à son article 16, dispose que la personne humaine est sacrée et qu'elle doit être respectée et protégée. Mais aussi, on peut ajouter l'article 61, son point 2, qui dit qu'aucune circonstance ne peut justifier la torture. Alors, nous savons aussi qu'il y a des instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a adhéré. Mais à côté de tout ça, notre pays s'est doté d'une loi, la loi 11-008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Alors, pour ce qui est de l'état des lieux, nous pouvons dire que la situation est relativement grave parce que la population manque suffisamment d'informations. Il y a des gens qui peuvent être victimes sans le savoir. Mais aussi, nous pouvons dire qu'il est rare dans notre système de trouver des données fiables. Donc, nous n'avons pas d'informations, des chiffres sur lesquels nous pouvons baser un travail de plaidoyer. Mais aussi, certains acteurs de la chaîne pénale, ils ont déjà été sensibilisés. Ils connaissent la loi. Malheureusement, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour limiter les mauvais traitements dans leur travail. Il faut noter aussi que les enquêtes ne sont pas facilitées par l'État. L'État a le rôle de visiter les cachots, d'enquêter sur le traitement des détenus et des prisonniers. Malheureusement, ce travail n'est pas fait de manière systématique.
La SOCOP, Solidarité pour la promotion sociale et la paix, c'est votre organisation. Comment la SOCOP combat la torture et participe au soutien des victimes de la torture?
SOCOP travaille depuis plus de 22 ans maintenant en faveur des victimes de la torture, en faveur des victimes des violences sexuelles aussi. Nous avons développé des centres médicaux spécialisés dans la réponse à la torture. Ce sont des centres qui accueillent les victimes, qui les traitent, mais qui les accompagnent aussi par un suivi psychologique, par un suivi dans le milieu de la justice. Mais aussi, nous avons développé depuis un certain temps un programme de réinsertion socio-économique. Alors, SOCOP bénéficie de l'appui du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture. C'est grâce à ces fonds que nous accompagnons cette année plus d'une centaine de victimes qui sont venues chez nous et que nous accompagnons tout au long de l'année.
Est-ce que vous êtes en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme?
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est un de nos partenaires d'État sur le terrain ici à Kinshasa et partout dans le pays. Nous avons travaillé ensemble de manière fructueuse. Ils ont référé des victimes chez nous, nous avons référé certains cas chez eux, nous avons collaboré sur un certain nombre de dossiers qui sont parvenus à libérer certains détenus. Notre travail ensemble a permis de soigner certains prisonniers et voilà, nous travaillons ensemble sur plusieurs angles, entre autres l'échange d'informations et le référencement des victimes.
En dehors de la conférence que vous avez organisée, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous avez pu initier dans le cadre de la journée du 26 juin?
Oui, hier par exemple, nous avons été sur terrain avec des équipes de la Maison des droits de l'homme, de la Maison des jeunes de Kitambo et de Victoire. Nous avons sensibilisé plus de 3500 personnes au niveau du rond-point Gaba. Nous avons même eu des signatures en termes d'engagement contre la torture où la population est venue signer, disant, bon voilà, nous encourageons cette initiative, nous voulons aussi nous engager contre la torture.
Éric Sérémani, merci.
Merci beaucoup.
En plus bref, à Béni-Nord-Kivu, un pont relie désormais le quartier Massiani au quartier Boïkéné. Coût de l'ouvrage, $12 000 américains, construit par les casques bleus népalais sur financement de la MONUSCO. Ce pont est donc un projet impact rapide sollicité par les habitants du quartier Massiani dans la commune de Moulekera. Il a été inauguré le 23 juin dernier en présence du directeur du bureau MONUSCO Béni Boutembo Loubero. MONUSCO toujours à Manaka, cette fois-ci d'abord, 25 agents de la police nationale congolaise, PNC, dont 3 femmes ont suivi cette semaine une session de recyclage. 2 formateurs, dont un de UNPOL, la police des Nations Unies, ont assuré cette formation. Alors qu'à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, 215 policiers congolais ont également suivi notre formation sur la police de proximité et 396 autres, dont 30 femmes, ont bénéficié d'une formation de base. Et le 28 juin enfin, 300 policiers UNPOL ont participé au lancement officiel de la formation anti-émeute à l'école de police de Kasangoulou, dans le Congo central. Enfin, volet humanitaire, plus de 66 000 déplacés pourront bénéficier d'une assistance dans les provinces du Haut-Lomami et le Tanganyika. Un accord a été conclu dans ce sens la semaine dernière entre l'Agence américaine pour le développement, USAID, et l'ONG Concern. L'accord concerne un projet d'assistance multisectorielle, précisément dans le territoire de Bukama et Malimbankulu, dans le Haut-Lomami, et à Manono, dans le Tanganyika.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Et notre invité ce dimanche est Alexis Bonté, représentant intérimaire de la FAO en RDC. Il a fait partie avec son collègue du PAM d'une mission conjointe PAM-FAO qui s'est rendue respectivement au Kasaï et dans le Tanganyika. Il rend compte de la situation humanitaire d'environ 2 millions de déplacés internes et de la réponse humanitaire sur place. Alexis Bonté, interrogé par Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Alex Bonté, bonjour.
Bonjour.
vous venez avec votre collègue du PAM d'effectuer une mission conjointe dans les cassettes, dans les Tanganyika aussi. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur ce que vous avez constaté sur place?
En fait, avec le représentant du PAM, c'est la deuxième fois qu'on se rend au Tanganyika et la deuxième fois qu'on se rend également dans les cassettes. Donc ça montre vraiment une préoccupation majeure que nous avons pour les deux agences. Donc ce qu'on a vu, sincèrement, c'est terrifiant et c'est bouleversant. Ça faisait longtemps que dans le cadre de mon travail, je n'avais plus été confronté à ce genre de situation, d'images et de vécu des populations. Pratiquement toutes les dames qu'on a pu rencontrer, en fait, elles ont une histoire relativement similaire. Je pense qu'on a rencontré 7-8 sur les deux camps où on est allé et toutes ont perdu un mari.
C'est là, justement, c'est où? C'est dans les Kassai?
Donc, que ce soit à Kalemi, dans les camps déplacés autour de Kalemi ou dans les zones de déplacés autour de Tchikapa, l'histoire est relativement la même. Donc, toutes ces dames ont perdu un mari qui a été souvent tué à coups de machette et également, elles ont perdu 2 voire 3 de leurs 5-6 enfants. Donc, quand elles ont dû voir cette catastrophe-là, elles ont dû fuir avec les enfants qui restaient, parfois des enfants de 2-3 ans. Par exemple, au Kassai, les dames ont quitté Kamoko, au bord de la frontière avec l'Angola, et elles ont marché pendant 4 à 5 jours, 100, 120 km dans les bas-fonds, avec les serpents, avec l'eau, dormir à même le sol, pour enfin retrouver un refuge au niveau de Tchikapa. Et même là, elles ne pouvaient pas dormir dans des maisons. En fait, souvent, elles ont dormi à l'air libre, autour des centres de santé, où elles se sentaient en sécurité, et où il y avait une certaine forme d'aide qui leur est fournie.
Oui, devant ces désastres humanitaires, si on peut dire ainsi, en dehors du plaidoyer que la FAO et les PAM peuvent mener simultanément ou même conjointement, il y a aussi des projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, des projets concrets que vous allez mener sur le terrain et que vous avez peut-être déjà menés pour aider tant soit peu ces populations en détresse?
Et donc, en fait, moi, dès que je vais en mission, si je vois des besoins comme ça, je prends action mais directement. Et là, mes collègues, il n'y a plus moyen qu'ils attendent quoi que ce soit, c'est une obligation totale. À Kalemi, on a discuté avec le chef Kalunga et il nous a mis à disposition plusieurs hectares de terre entre les collines, là où sont localisés les déplacés. Et on a envoyé des intrants maraîchers, des semences, des outils, des arrosoirs. Et les déplacés eux-mêmes, surtout des femmes et quelques enfants, ont dégagé la broussaille et ont ouvert des champs où maintenant il y a du gombo qui pousse, des amarantes, des patates douces, du manioc. Et là, sincèrement, on a revu des sourires apparaître. Donc là, les dames travaillent, les enfants sont à côté, ils jouent sur les pentes des collines, ils jouent avec l'eau. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est au-delà de la production. Donc ça va leur permettre de se nourrir elles-mêmes, mais également de vendre, donc de générer des petits revenus. Mais au-delà de ça, pour moi, le plus important, c'est reprendre goût à la vie. Parce que quand vous avez perdu votre mari et une partie de vos enfants, moi, je ne peux même pas m'imaginer ce que ça veut dire. Ça, c'est une catastrophe pour elles maintenant. Maintenant, imaginez quand elles vont retourner chez elles, en tant que femmes. Elles doivent reconstruire une maison, réouvrir des champs. Est-ce qu'elles vont avoir accès à la terre? Qu'est-ce qui va être fait sur place? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est dramatique. Parce que maintenant, mon souci, c'est comment est-ce qu'elles vont pouvoir se projeter dans l'avenir.
Et vous étiez aussi dans les Kassai. Et là aussi, les désastres humanitaires sont importants. Qu'est-ce que la FAO et les PAM ont mené comme action?
Donc là, en fait, on a eu la chance de rencontrer des ONG locales basées à Tchikapa. Parce que là non plus, moi, je ne savais pas quoi faire parce que ces gens sont dans la ville, dans des familles hautes. Et donc, ces ONG nous ont dit, écoutez, nous, on peut les mobiliser pour faire en sorte qu'elles travaillent également l'agriculture, mais dans des zones juste un peu périphériques de la ville de Tchikapa. Et donc, il y a 3 ONG nationales congolaises qui ont permis d'ouvrir, je pense, presque 20 hectares dans 3 sites différents le long du fleuve. Et là également, je suis retourné 3 semaines après. Et quand je suis arrivé sur ces sites-là, j'ai vraiment demandé aux collègues, j'ai dit, est-ce que ce sont les mêmes déplacés ou bien ce sont des gens locaux? Il m'a dit, non, ce sont des déplacés. Et là, de nouveau, on a vu cette dame reprendre goût à la vie. Elle parlait, elle chantait en travaillant. Quelque chose de inouï. Quand vous savez que quelques mois auparavant, elles ont été pourchassées à la machette par des hommes. Et malgré ça, maintenant, elles reprennent goût à la vie. Elles parlent entre elles. Et en fait, cette zone de champs maraîchers, ça devient un lieu social, en fait.
Vous avez évoqué aussi la crainte pour le retour de toutes ces familles, une fois la situation est redevenue normale, nous le souhaitons, pour accompagner ces déplacés vers les chemins de retour. Est-ce que la FAO et les PAM ont pris des dispositions pour aider tant soit peu ces populations?
Ok, donc là, je vais simplement me permettre de parler au niveau concernant la FAO. Donc, lors de la visite du directeur des urgences, de la division des urgences à Rome, qui est venu avec nous au Kassai et au Tanganyika, on a pris une décision de débloquer des fonds propres de la FAO pour s'assurer qu'on puisse être actif le plus rapidement possible. Donc, on ne va pas s'arrêter à faire un plaidoyer pour mobiliser plus de ressources auprès des bailleurs de fonds, mais on a pris l'engagement de mobiliser déjà des ressources intérieures. Comme ça, d'une part, on peut continuer à aider les déplacés dans leur zone de déplacement, là, donc autour de Tchikapa, Kalemi, etc. Mais également, on a constaté un léger retour au calme entre Kananga et Chimbulu. Donc là, il y a des gens qui commencent à revenir dans leur village d'origine, et là aussi, on va intervenir. intervenir avec des semences vivrières dès la saison agricole qui commence, dont le semis commence au mois d'août.
Oui, vous avez tout à l'heure là évoqué la présence dans votre mission des directeurs d'urgence, l'un de la FAO et l'autre du PAM. Qu'est-ce qu'ils vont préconiser à leur niveau, au niveau des ROM, comme action immédiate ou même à court terme pour éviter la catastrophe humanitaire en République démocratique du Congo et notamment dans les Kasaï et les Tanganyika?
Donc eux, ils ont deux outils principaux à leur niveau. Un, c'est le plaidoyer. Ils ont accès en fait directement aux directeurs des agences, donc les directeurs généraux et les directeurs exécutifs, qui eux ont accès au Conseil de sécurité, au secrétariat général au niveau de New York. Donc il va y avoir des notes d'information concernant la situation humanitaire dans ces zones-là. Et vous savez que si le secrétaire général des Nations Unies prend des décisions d'informer les ministères des Affaires étrangères des pays bailleurs de fonds, des pays donateurs, là on peut s'attendre à ce qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus importante que ce que c'est actuellement par rapport à la situation du Kasaï et de Tanganyika. Donc ça, c'est un premier niveau de décision qu'ils vont développer. Et le deuxième, c'est ce que je vous ai dit juste auparavant, c'est qu'ils ont des capacités également de pouvoir mobiliser des fonds internes. Donc là, je ne me permettrai que de mentionner la FAO. Donc là, comme je vous ai dit, il y aura, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais en tout cas plusieurs centaines de milliers de dollars qui vont être débloqués au niveau de la FAO pour continuer les activités qu'on a entamées en faveur des déplacés.
Pour terminer, il y a combien de déplacés au Kasaï et aussi dans les Tanganyika?
Au Tanganyika, il y a maintenant plus de 1,5 million de personnes qui sont déplacées. Donc je pense qu'il y a 5, 6 ou 7 camps autour de Kalemie, mais il y a également des situations déplorables dans les environs de Manono. Après, au Kasaï, c'est de l'ordre également de entre 1,3 million et 1,5 million personnes qui sont déplacées. C'est évidemment très difficile d'avoir les chiffres à cause des conditions sécuritaires, spécialement au sud de Chicapa, donc la zone qui est entre Chicapa et la frontière d'Angola. Donc ce sont des estimations, mais en tout cas, c'est colossal, c'est terrifiant, et quand vous y allez, vous revenez bouleversé.
Et Alex, Radio Capi vous remercie.
Non, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous pouvez continuer à faire un plaidoyer pour toutes ces populations.
Rendons-nous à Goma, au Nord Kivu. La MONUSCO a organisé la semaine dernière une formation sur la sécurisation des prisons. À l'issue de cette formation, des recommandations ont été faites pour parvenir à élaborer un plan de contingence pour sécuriser les prisons de la province. L'un des formateurs des Nations Unies, Abdou Ndiaye, l'a expliqué au micro de Gabriel Wamenia.
Les grandes recommandations tournaient sur le renforcement de l'effectif, la dotation en matériel et en plus, pour une meilleure sécurisation, le déguerpissement de tous les riverains là qui occupent les alentours de la prison, pour la construction des miradors afin d'apercevoir l'ennemi de loin. Les participants ont recommandé au gouvernement congolais leur prise en charge financière. Ils ont demandé aussi au gouvernement congolais la dotation en armes suffisantes et des véhicules pour assurer la liaison entre la prison et les hôpitaux ou bien les structures judiciaires. Il n'y a pas une sécurité parfaite. Ça va améliorer la sécurité de la prison de Goma, qui n'est pas du tout sécurisée avec la manière dont elle fonctionne. Une prison où les visites se passent à l'intérieur. Une prison où on ne détermine pas les jours de visite. Une prison où on ne fixe pas les heures. Nous ne sommes pas dans des conditions de sécurité requises par les normes internationales.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Le processus démocratique en RDC, l'application de l'accord du 31 décembre, c'est en tout cas la question posée mercredi dernier à la conférence hebdo des Nations Unies. Théophane Kinda, porte-parole ad intérim de la MONUSCO, répond. Suivez.
Voilà, je suis Anthony Chamba pour le compte de Radio Télévision. La vie à Kinshasa devient quasiment intenable avec les dollars américains qui, chaque jour, ne fait qu'augmenter. Nous avons appris qu'en sous-main, la MONUSCO était en train de travailler avec les opérateurs politiques pour le respect de l'application de l'accord du 31 décembre. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes et si jamais c'est au point mort, peut-on considérer que la MONUSCO a mis un trait quant à l'application, quant au respect de l'accord du 31 décembre? Merci.
La réponse est que nous n'avons pas mis un trait par rapport aux négociations, par rapport à nos efforts. Je venais de vous le dire tantôt, nous ne cessons de déployer les efforts pour discuter sur les questions de l'heure, que ce soit les problèmes au niveau électoral, que ce soit le problème de la mise en place des structures devant régir un peu le processus jusqu'à la date des élections. Nous ne cessons, le représentant spécial ne cesse de déployer des efforts pour continuer à essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver un consensus. Donc, je le répète, je le souligne, ce n'est pas un abandon. Bien au contraire, nous continuons à œuvrer pour trouver une solution. Donc, les accords du 31 décembre, nous continuons à le soutenir. C'est notre mandat que le Conseil de sécurité nous a donné et nous continuons à le faire.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Bienvenue Bagalois. Je suis marié et père de 3 enfants. J'ai une épouse, bien sûr, et je suis trop attaché à ma famille. Par rapport à mon cursus scolaire, j'ai étudié à l'école d'application de l'UPEN et là j'ai obtenu un diplôme latin philo. Et quant à mon parcours académique, je suis allé pas loin mais juste à côté, donc à l'UPEN, et dans le temps c'était IPEN, donc Institut Pédagogique National. Donc j'ai fait l'anglais et culture africaine, et j'ai obtenu une licence en anglais et en culture africaine. Voilà, et pour le moment, je suis aux ressources humaines à la MONUSCO. Depuis 2005, j'ai commencé en tant qu'interprète et j'ai travaillé avec les Uruguayens dans un contingent où on devait traduire en français, anglais et puis espagnol. On a fait beaucoup d'années là en tant qu'interprète. Et donc c'était aussi pour les langues africaines. Et finalement, il y a eu juste un petit changement parce que on devait, dans l'entretemps, travailler avec les ressources humaines où chaque fois qu'il y avait des interprètes qui devaient être engagés, alors j'étais associé au panel pour les interviews en tant que spécialiste en langue. Et c'était ma part que je prenais pour les interviewer et puis sélectionner par la suite. Alors il est arrivé à un moment donné, par rapport à l'abolition des postes, j'étais touché dans cet exercice-là. Mais lorsqu'on a demandé qu'on fasse l'expression d'intérêt, on a vu effectivement qu'il y avait quelque chose que j'avais fait avec les ressources humaines. Et c'est en ce moment-là qu'on a pu m'engager. Donc je suis revenu, on m'a placé, c'est ce que je dis, dans les ressources humaines. Et j'ai évolué là depuis 2014 en tant qu'assistant aux ressources humaines. Et là, c'était dans l'unité assistance aux clients. Donc tous qui sont comme agents des Nations Unies venaient pour tel ou tel problème et nous étions en train de les assister. 2 ans après, il y a eu un certain renouvellement et pour le moment, je suis en train de travailler dans l'organisation des postes. Mais dans l'entretemps, alors, on a eu aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup d'enseignements, beaucoup de formations. En tant que tel, je suis expert en Umoja. C'est une application qui est utilisée dans les Nations Unies, une base de données de tous les personnels des Nations Unies, tant international national que national. Chaque fois qu'il y a traitement dossier dans les fonctionnalités, c'est moi qu'on contacte pour essayer d'aider les gens à pouvoir utiliser cette application-là. Alors on reçoit tout le temps des appels, voilà, je suis bloqué dans telle chose, je ne peux pas faire telle autre chose, je ne sais pas traiter tel dossier, je ne sais pas voyager, je ne sais pas enregistrer mon enfant, je ne sais pas finalement enregistrer mon épouse. Alors on est là, on le soutient. Nous venons à 8h30, mais personnellement je préfère venir avant 8h30 pour voir les emails parce que d'habitude il y a des gens qui vous envoient les emails à 4h du matin ou alors pendant le week-end. Vous devez être en mesure de voir, de lire, n'est-ce pas, ces messages et de savoir réagir. Donc vous réagissez aussi rapidement avant de prendre votre journée et finalement travailler par rapport à votre emploi du temps. Et là, chaque fois, c'est entre les appels et les urgences. Vous voyez, ce sont les ressources humaines. Vous recevez les ordres ou les instructions qui viennent de votre superviseur hiérarchique. Entre ces instructions et puis les clients que vous recevez, vous devez vraiment tout faire pour satisfaire à leurs besoins. J'ai plus évolué dans le domaine de l'enseignement avant d'être à la MONUSCO en 2005. Et là, en tout cas, l'enseignement, ça me connaît, c'est vraiment comme le fond de ma poche. Là, j'ai eu à enseigner à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Donc, par rapport à mon temps libre, il faut dire que je n'en ai pas vraiment. Je préfère plus passer le temps à l'église et avec ma famille rester ensemble parce qu'on n'a pas toujours le temps. Les haricots, j'aime le riz, j'aime plus les légumes, le poisson et la viande, vraiment ça ne m'intéresse pas. La musique, j'aime la musique chrétienne, surtout le pasteur Atoms. Kiyote Masia Yesu Melinasuka Wapi. Perspective d'avenir, un chien vraiment vivant, et ça vaut plus que
un lion qui est mort. J'aimerais vraiment continuer à être beaucoup plus professionnel, international, évoluer dans le système des Nations Unies, pourquoi pas dans une autre agence, et continuer à avoir d'autres ambitions, créer, être le patron de moi-même et avoir une entreprise. Un peu ça ce que je peux dire par rapport à moi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Notez ce rendez-vous le 6 juillet prochain, réunion à New York du Conseil économique et social des Nations Unies sur le management. Voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies qui a été supervisé par Martin Seboujangwe, Jean-Pierre Elali Coco à la réalisation et à la coordination, Honoré Missinga au reportage. Quant à moi, Tina Salama, je vous l'ai présenté avec beaucoup de plaisir. Bob Milandou, la mise en onde. À très bientôt sur Radio Capi. Ciao.